Nous recevons Olivier Talagrand. Olivier Talagrand est né en 1946 au Mans. Il se définit lui-même comme un dynamicien de l'atmosphère. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS. Il est spécialiste de la dynamique des atmosphères terrestres et planétaires et de la modélisation numérique des écoulements atmosphériques. En 1996, il a reçu le prix Antoine Dabadie de l'Académie des sciences en partage avec M. Courtier. Parmi ses publications, Olivier Talagrand est l'auteur de nombreuses publications scientifiques dans des revues spécialisées, mais aussi on peut mentionner deux articles de vulgarisation assez intéressants qui ont rapport véritablement avec la conférence de ce soir. D'abord, en 1995, Olivier Talagrand a publié « La prévision en météorologie » pour la science dossier sur le chaos. Et plus récemment, en 1999, avec messieurs Forget et Ourdin, ils ont publié « La circulation des atmosphères », toujours dans le magazine pour la science, c'est le dossier « Les terres célestes ». Voilà. Olivier Talagrand, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat de 20 minutes avec la salle. Je vous remercie.
Merci bien. Merci bien. Bon, je dois vous parler ce soir de météorologie. Je pense qu'un certain nombre de membres de l'assistance était présent hier à la conférence que mon collègue Hervé Le Treut a présentée sur l'action de l'homme sur le climat. Demain, un autre de mes collègues, Robert Cerdourny, parlera du climat de façon plus générale. Et il est peut-être bon de consacrer quelques mots à ce qui fait la distinction entre la météorologie, dont je vais vous parler ce soir, et le climat. La météorologie s'intéresse aux phénomènes atmosphériques comme les tempêtes, les dépressions, les cyclones, en quelque sorte au jour le jour. Elle étudie les phénomènes individuellement et elle s'attache en particulier à les prévoir à une échéance de quelques jours ou mettons quelques semaines ou éventuellement quelques mois, je n'en dirai plus plus. Le climat s'intéresse avant tout aux propriétés moyennes de l'atmosphère et des phénomènes météorologiques. Et pour prendre un exemple simple, celui des deux tempêtes qui ont frappé la France à la fin de décembre 1999, le phénomène de ces tempêtes individuelles, la façon dont elles se sont produites, la possibilité qu'il y a eu ou non de les prévoir, relève de la météorologie. La question tout à fait pertinente de savoir s'il faut s'attendre à une augmentation du nombre de tempêtes violentes de ce genre dans les années ou les décennies à venir, elle relève de la climatologie et du climat. Bon, une première question qu'on peut se poser, c'est simplement pourquoi y a-t-il de la météorologie ? Pourquoi y a-t-il du vent ? Pourquoi y a-t-il de la pluie ? Pourquoi y a-t-il constamment des phénomènes météorologiques ? Et pourquoi ces phénomènes présentent-ils un caractère d'irrégularité assez important, qui en particulier rend leur prévision difficile ? Alors, pour introduire un peu cette question, je vais commenter pendant quelques minutes cette figure. Voilà, qui représente... En fonction, alors c'est une figure relative à la planète Terre dans son ensemble, qui représente en fonction de la latitude, ici vous avez ici l'équateur, le pôle nord 90 degrés, le pôle sud 90 degrés. Alors vous voyez, l'échelle horizontale n'est pas directement proportionnelle à la latitude, il y a beaucoup plus de distance entre 0 et 30 degrés qu'entre 60 et 90 degrés. C'est parce que cette échelle horizontale là est proportionnelle non pas à la latitude elle-même, mais à la surface effective sur la Terre. Il y a évidemment une plus grande surface entre l'équateur et 30 degrés de latitude qu'entre 60 et 90 degrés de latitude où on se rapproche du pôle. Donc, en fonction de la latitude, la courbe supérieure, ici, représente la quantité d'énergie reçue en moyenne sur l'année par unité de surface horizontale, au sommet de l'atmosphère. Alors, si on se place perpendiculairement à la direction du Soleil sur l'orbite terrestre, la quantité d'énergie qui vient du Soleil, est d'environ 1400 watts par mètre carré. Chaque mètre carré reçoit 1400 watts d'énergie du Soleil. À l'équateur, l'équateur n'est pas toujours perpendiculairement au Soleil, et en moyenne, l'équateur reçoit 450 watts par mètre carré en moyenne sur toute l'année. Ceci est bien entendu modulé du fait des jours et des nuits des saisons, mais en moyenne 460 watts par mètre carré. Chacun des deux pôles, qui évidemment ne reçoit de l'énergie que pendant l'été correspondant, reçoit à peu près 200 watts par mètre carré. Maintenant, une certaine proportion de cette énergie incidente est réfléchie par les nuages, par la surface des continents, par la surface des océans. Et la courbe inférieure, à peu près 30-35% de l'énergie réfléchie, n'a donc aucune influence sur ce qui se passe à l'intérieur de la planète. Et la courbe inférieure représente la quantité d'énergie effectivement absorbée par la planète en moyenne au cours d'une année. Maintenant, la Terre, comme tout corps physique qui n'est pas au zéro absolu, émet vers l'espace extérieur une certaine quantité d'énergie. On sait que la quantité d'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique, on sait que cette quantité d'énergie augmente quand la température d'un corps augmente. On sait aussi, c'est une loi de base de la physique, que les domaines de longueur d'onde dans lesquels un corps est émis varient suivant la température de ce corps. Et pour ce qui est de la Terre, le rayonnement propre que la Terre émet vers l'espace extérieur, elle l'émet dans la partie infrarouge du spectre, c'est-à-dire que la Terre n'émet pas de la lumière, contrairement aux étoiles, mais elle émet du rayonnement infrarouge. La courbe entièreté représente, encore moyennée sur une année, l'énergie émise par la planète vers l'espace extérieur. La Terre est à peu de choses près en équilibre énergétique, c'est-à-dire que sur un an ou sur plusieurs années, elle émet à peu près, à très peu de choses près, la même quantité d'énergie qu'elle reçoit du Soleil. Il y a bien sûr une source d'énergie interne, l'énergie géothermique, due à la radioactivité des éléments qui constituent la Terre. Cette énergie interne est extrêmement importante, c'est elle qui est à l'origine de la tectonique des plaques, des volcans et de tous les phénomènes géologiques. Mais en quantité, elle est à peu près un dix millième de l'énergie que reçoit le Soleil et sans importance pour le genre de phénomène dont nous parlons ici. La Terre reçoit donc, émet donc au total autant d'énergie qu'elle reçoit du Soleil, mais on voit que les basses latitudes, l'équateur et les basses latitudes, reçoivent plus d'énergie qu'elles n'en émettent, tandis que les hautes latitudes émettent plus d'énergie qu'elles n'en reçoivent. Et le principe de conservation de l'énergie impose donc qu'il y ait, à l'intérieur de la planète, un transfert d'énergie depuis les basses latitudes les plus chauffées vers les hautes latitudes les plus élevées. Eh bien, la météorologie, enfin, et le climat aussi, c'est ça. L'échauffement différentiel, le fait que les basses latitudes soient plus chauffées que les hautes latitudes, introduit des différences de température à l'intérieur des masses fluides, l'atmosphère et l'océan. Ces différences de température produisent des différences de pression. Ces différences de pression mettent en route le mouvement et créent un mouvement dont l'effet net est de transporter de l'énergie depuis les régions les plus chauffées aux régions les moins chauffées. Là. La circulation de l'atmosphère et des océans, le climat et la météorologie ne sont que la conséquence immédiate du fait que l'atmosphère n'est pas chauffée uniformément par le Soleil. Alors, ce qui se passe peut être décrit en termes simples, de façon avec une espèce de petit schéma qui explique rapidement les choses. Je considère simplement un récipient contenant un fluide au repos. Et je suppose que ce fluide est chauffé d'un côté, ici par exemple, d'un côté, c'est un... et puis est refroidi de l'autre. Je le maintiens ici à une température plus élevée qu'il n'est ici. Au bout de quelques temps, le fluide ici va être plus chaud, donc va se dilater, donc va être moins dense que le fluide qui se trouve ici à la même hauteur. Ceci est évidemment une situation instable, et le fluide dense va avoir tendance à passer au-dessus, le fluide au-dessous, le fluide léger a tendance à passer au-dessus. Il va donc se produire un espèce de mouvement de bascule, de convection, comme on dit, dans lequel le fluide léger va se déplacer dans les parties supérieures du fluide vers la partie froide, et le fluide dense, venant de la partie froide, va se déplacer dans la partie inférieure vers la partie la plus chaude. Alors, si la différence de température est maintenue, eh bien, ce mouvement de convection va se continuer, produire continuellement dans le temps. Alors, évidemment, comme le fluide peu dense ici est plus chaud que le fluide dense qui est ici, l'effet net de ce mouvement de bascule va être simplement de transporter de l'énergie depuis la partie la plus chauffée vers la partie la moins chauffée. Ça, c'est la raison première pour laquelle l'atmosphère et les océans bougent. Alors, un autre élément extrêmement important, après la différence de température entre les latitudes les plus élevées et les latitudes les moins élevées, est simplement la rotation terrestre. La rotation n'est pas la cause du mouvement des atmosphères et des planètes, du mouvement de l'atmosphère et des océans, mais en est l'influx de façon, influe sur ces mouvements de façon extrêmement importante. Alors, là aussi, le choses peuvent être exprimées en termes simples. Si une particule fluide qui se trouve, mettons, à l'équateur, qui est entraînée par la rotation terrestre, est mise en mouvement sous l'effet de la différence de température entre l'équateur et les latitudes plus élevées, et mise en mouvement vers les latitudes plus élevées, elle part de l'équateur avec une vitesse qui, par rapport aux étoiles fixes et la vitesse de la rotation terrestre, vitesse qui est à l'équateur, est beaucoup plus grande que la vitesse de rotation à latitude plus élevée. Donc la particule qui va, dans son mouvement, conserver sa vitesse, ou plus exactement, pour ceux qui connaissent la physique, conserver son moment cinétique par rapport à l'axe de rotation de la Terre, va acquérir, à mesure qu'elle s'éloigne de l'équateur, une vitesse qui, par rapport à la Terre en rotation, est de plus en plus grande et qui est orientée dans le sens de la rotation de la Terre, puisqu'elle est partie de l'équateur où la rotation de la Terre est plus grande. Donc la particule va acquérir, à mesure qu'elle se déplace vers les latitudes plus élevées, une vitesse par rapport à la Terre en rotation, dirigée dans le sens de la rotation, c'est-à-dire dirigée d'ouest en est. Et ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle, dans les latitudes moyennes, comme les nôtres, les mouvements de l'atmosphère, en gros, se produisent d'ouest en est. Réciproquement, c'est fait exactement dans les basses latitudes, le mouvement qui résulte en définitive de tout, toute cette circulation est dirigé d'est en ouest en sens opposé. Incidemment, cette simple structure des mouvements est une preuve évidente de la rotation terrestre, que la Terre est en rotation par quelque chose, par rapport à quelque chose où fondamentalement il n'y a pas de rotation. Alors l'effet combiné de ces deux, on va dire, ingrédients de base, les différences de température, les différences d'échauffement dues aux différences de latitude et la rotation, peuvent être étudiées expérimentalement par un dispositif qui est extrêmement utile et qui consiste simplement à prendre, par exemple, sous sa forme aussi plus simple, on considère simplement deux cylindres coaxiaux autour d'un même axe vertical. Des cylindres qui peuvent tourner autour de leur axe vertical commun. On met un fluide entre ces deux cylindres. On chauffe d'un côté, on chauffe par exemple le cylindre extérieur, on refroidit le cylindre intérieur. Si on occupe vue de dessus, on pourra dire que le cylindre extérieur c'est l'équateur et que le cylindre intérieur c'est le pôle. Et puis on peut donc faire varier la différence de température entre les deux cylindres. On peut faire varier le taux de rotation des deux cylindres autour de leur axe commun. On peut même faire varier les deux cylindres, faire tourner les deux cylindres à des vitesses différentes si l'on veut. Enfin, on peut étudier toute une combinaison des paramètres de base que sont la différence de température et la rotation et voir le genre de circulation que ces paramètres introduisent dans le fluide. Alors, incidemment, il y a un dispositif de ce genre, un anneau-tournant de ce genre, à la Villette, à la Cité des sciences, qui permet de visualiser un peu les mouvements qui se produisent dans ce genre de choses. Alors, si on voit ceci, cette figure représente un peu un résultat expérimental obtenu dans un dispositif de ce genre, où le cylindre extérieur est échauffé, le cylindre intérieur est refroidi, c'est vu du dessus. Et là, ce sont des images prises par une caméra qui était en rotation avec les cylindres eux-mêmes. Et le temps d'exposition, c'est un appareil de photographie plus présent, il y avait des particules en suspension dans le mouvement, et le temps d'exposition permettait de visualiser sous forme de petites traînées le mouvement des particules. Alors, ces six figures correspondent à un même différence de température entre le cylindre extérieur et le cylindre intérieur. Alors, celui-ci peut être comparé comme une espèce de représentation extrêmement simplifiée de la Terre en rotation, l'équateur étant ici, le pôle étant là, correspondent à des vitesses de rotation croissantes. Alors, quand la vitesse de rotation est relativement petite, les particules dans la partie supérieure du fluide, se dirigent de la partie du cylindre extérieur vers le cylindre intérieur, mais du fait de la rotation, sont animées d'une vitesse dans le sens perpendiculaire, dans le sens azimutal, qui devient assez importante. Et la conséquence de ceci, c'est qu'au total, à cause de cette vitesse azimutale due à la rotation du système, la quantité d'énergie qui est transportée depuis le cylindre extérieur vers le cylindre intérieur devient de plus en plus petite, et cet état du fluide devient instable. Et à mesure que la rotation du fluide des cylindres augmente, on voit apparaître un système d'ondes de plus en plus compliqué et de plus en plus fluctuant. mesure que la rotation augmente, des ondes apparaissent, qui sont de plus en plus nombreuses à mesure que la rotation augmente, et qui présentent, à basse rotation, ces ondes sont stationnaires, ne changent pas de forme par rapport au cylindre de rotation, mais à mesure que la rotation augmente, elle manifeste de plus en plus de variations. Alors fondamentalement, ce dispositif assez simple explique, au moins pour un certain nombre d'éléments essentiels, ce qui se passe, ce qu'on observe dans l'atmosphère terrestre. Aux basses latitudes, où en un certain sens la rotation est relativement faible, la rotation qui compte, c'est la rotation par rapport à la verticale locale. Eh bien, on a, dans les basses latitudes de l'atmosphère terrestre, un mouvement ascendant dans les régions les plus chauffées, suivi d'un mouvement vers les latitudes plus élevées dans les couches supérieures de l'atmosphère, un mouvement de subsidence, de descente à peu près aux latitudes de 30 degrés, c'est là que correspond aux bandes de désert qu'on observe dans les deux hémisphères à cette latitude d'environ 30 degrés, compensé ensuite par un mouvement de retour vers l'équateur dans les basses couches. Et ce mouvement de retour de l'équateur, qui au total est dirigé d'est en ouest, constitue les alizés bien connus des livres de géographie. Aux latitudes plus élevées, la rotation, c'est la rotation autour de la verticale locale qui compte, devient plus importante, et alors on tombe dans l'état d'instabilité que l'on observe sur les zones au tournant, et on observe une circulation tout à fait différente, un système de régime de vagues, d'ondulations, séparant des zones de haute pression et de basse pression, entre lesquelles l'air atmosphérique circule. Pardon ? On n'a pas vu la partie inférieure. D'accord, la partie inférieure, on vous présente de façon schématique. De toute façon, je vous présente ici une carte qui représente une situation météorologique réelle. Il s'agit de l'hémisphère nord, c'est une situation météorologique particulière. Le pôle nord est ici. Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais enfin, l'Europe est ici, l'Afrique est ici, et l'Amérique du Nord est ici, avec ici la Floride et puis le Mexique ici. Et vous avez ici une ligne qui visualise en quelque sorte l'écoulement météorologique, l'écoulement atmosphérique pour ce jour particulier, et vous voyez un certain nombre d'oscillations de l'écoulement, d'oscillations séparant des zones de basse pression et des zones de haute pression. Alors ceci, donc, ces roulements, c'est la conséquence, comme je vous l'ai expliqué, simplement de la différence de température entre les basses latitudes et les latitudes plus élevées. Et la météorologie, dans nos latitudes, c'est simplement l'étude et la prévision de la formation, du mouvement, des interactions mutuelles, de la disparition éventuelle et de la régénération permanente de ces structures. Alors, en plus de ce que j'ai dit, d'autres éléments interviennent. Il y a par exemple des océans et des continents. Les propriétés thermiques des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Ce qui fait donc que le régime thermique n'est pas exactement le même et les différentes structures météorologiques sont plus ou moins déterminées par la distribution des océans et des continents. Vous avez tous entendu parler de l'anticyclone des Açores ou de la dépression d'Islande. Ce sont des régions où ces structures météorologiques ont plutôt tendance à apparaître. La dépression moins connue en Europe, mais la dépression des Aléoutiennes dans le nord du Pacifique, est une structure absolument permanente dans l'écoulement atmosphérique. La conséquence de tout ça est aussi qu'il y a des régions, en quelque sorte, qui sont fondamentalement plus instables et où les structures météorologiques, les dépressions en particulier, se produisent de façon plus fréquente. Et c'est en particulier le cas de l'Atlantique Nord, avec l'importance que ça a pour la météorologie de l'Europe occidentale. Un autre élément important est la présence d'eau dans l'atmosphère. Il y a de l'eau dans l'atmosphère. Il se trouve que les conditions de température et de pression dans l'atmosphère sont telles que l'eau peut exister sous ces trois phases, solide, liquide et gazeuse. Et l'eau a une influence extrêmement importante sur tout le régime de circulation et l'énergétique de l'atmosphère. Elle est importante non seulement parce que l'usager ordinaire de la météorologie souhaite savoir s'il va pleuvoir ou non, ou s'il va y avoir des nuages ou non, mais les quantités d'énergie mises en jeu par les changements de phase de l'eau sont importantes et sont une composante tout à fait significative de l'ensemble du cycle énergétique de l'atmosphère. Et en plus de ça, les différentes phases de l'eau, et en particulier l'eau liquide, qui peut se produire des nuages sous forme de petites gouttelettes, ont un effet extrêmement important sur les propriétés de l'atmosphère, et en particulier les nuages réfléchissent, on le sait bien, une partie importante du rayonnement solaire, avec la conséquence que suivant qu'il y ait ou qu'il n'y a pas de nuages, la quantité d'énergie qui va atteindre le sol va être tout à fait différente. Alors maintenant, Il s'agit donc, la météorologie, c'est l'étude, en quelque sorte, de ces fluctuations. L'atmosphère est un fluide turbulent, au même titre que beaucoup d'autres, au même titre que la fumée de cigarette, au même titre que l'eau d'un torrent, au même titre que les fluides dans les étoiles. Et l'étude de la météorologie, c'est l'étude des propriétés de ce fluide dans lesquelles des mouvements sont en permanence régénérés, en l'occurrence, par la différence de température entre les basses latitudes et hautes latitudes. Alors, maintenant, comment... Un élément important, c'est bien sûr de prévoir comment ces différentes structures vont évoluer au cours du temps. Alors, je vais commenter un peu cette figure qui est issue de prévisions effectuées dans un organisme qui s'appelle le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme. C'est un organisme commun à 19 pays d'Europe, situé à Reading, en Grande-Bretagne, pas très loin d'Oxford. C'est un organisme qui, depuis une vingtaine d'années, produit des prévisions météorologiques quotidiennes sur la base de modèles numériques d'un type dont je vais vous donner quelques plus de détails dans quelques minutes. Et ceci représente, c'est pas très visible, mais je vais commenter, 32 prévisions, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, effectuées pour le même jour, par le même modèle, à partir de conditions initiales légèrement différentes. De conditions initiales, alors ces modèles partent d'un état initial de l'atmosphère et calculent de proche en proche l'évolution future, avec un certain degré de précision. Alors il y a toujours une incertitude, même sur l'état présent de l'atmosphère. Il n'y a pas des mesures absolument partout en permanence. Il y a toujours une incertitude. Donc là, ces 32 prévisions avaient été effectuées à partir d'états initiaux dont la dispersion était censée représenter l'incertitude sur l'état présent de l'atmosphère. Et puis le modèle a donc été intégré, on l'a fait tourner, 32 fois en l'occurrence, même 33 fois. Et au bout de 168 heures, c'est-à-dire de 7 jours, on a obtenu ces 32 prévisions. Alors, je vous explique ce que c'est. Chacune de ces petites figures représente en fait l'Europe occidentale. La Grande-Bretagne est ici, la France est ici, l'Espagne est là. Ici, ça va jusqu'à l'Islande. Puis ici, vous avez la mer Noire et vous avez un morceau de Turquie. Enfin, c'est l'Europe occidentale, et un petit, enfin l'Europe occidentale et centrale et un petit morceau de l'océan Pacifique. À la précision de cette figure, les 32 états de départ ne pourraient pas être distingués. Il faudrait une figure de plus de détails pour distinguer des petites différences. Au bout de 7 jours, on obtient des choses totalement différentes. Même si vous ne connaissez pas grand-chose, alors je ne sais pas si c'est très très visible, mais par exemple ici, il y a un écoulement qui est entièrement dirigé d'ouest en est et qui envoie sur l'Europe centrale de l'air qui vient directement de l'océan Atlantique. Ici, il y a une zone de haute pression, là, au nord du Danemark, et cette zone de haute pression envoie sur l'Europe centrale un écoulement qui vient du nord, qui a contourné la zone de haute pression, qui vient du nord, qui est passé dans des latitudes élevées où il a largement eu le temps de se refroidir, et avant donc un courant d'air froid sur l'Europe centrale. Il s'agirait de situations météorologiques totalement différentes. Donc partant à un jour donné de situations météorologiques très proches, correspondant dans la marge d'erreur, dans la marge d'incertitude définie par les observations disponibles, on obtient 16 jours plus tard des prévisions totalement différentes. Alors ceci met en évidence une propriété bien connue et extrêmement importante, enfin, en toute rigueur, des modèles numériques d'atmosphère, mais on l'étend à l'atmosphère en elle-même sans difficulté. De toute façon, ça montre les limites de nos capacités de prévision. Une toute petite perturbation initiale conduit rapidement à une grande erreur sur la prévision. Alors c'est un fait très connu qui a été mis en évidence de façon très claire par un scientifique américain, Edward Lorenz, en 1963, à l'aide des moyens de calcul qu'on jugerait maintenant extrêmement rudimentaires dont on disposait à l'époque. C'est l'origine de ce qu'on appelle la théorie du chaos, en tout cas l'origine de la forme moderne de la théorie du chaos. C'est popularisé sous la forme de l'effet papillon. Un papillon bat des ailes, il crée une petite perturbation dans l'air qui l'environne immédiatement. Cette perturbation se propage un peu plus loin, et un peu plus loin, elle est progressivement amplifiée, et il en résulte que 10 ou 15 jours plus tard, le temps était tellement différent de ce qu'il aurait été si le papillon n'avait pas battu des ailes. Je veux dire qu'en ce qui concerne un papillon, je ne suis pas absolument convaincu. Le papillon agit à une échelle de quelques centimètres, une échelle d'espace où la viscosité joue un rôle important, et il est fort possible que la perturbation introduite par les battements d'ailes du papillon soit en fait amortie et n'ait pas d'influence, et aucune influence significative. Mais une perturbation plus grande, même si à l'échelle de la Terre tout entière elle est petite, par exemple une éruption volcanique, va certainement avoir cet effet et changer le temps. Alors cette grande sensibilité aux conditions initiales, qui est une propriété de l'atmosphère et de beaucoup d'autres systèmes, est la raison fondamentale pour laquelle il est difficile de prévoir le temps. Alors on oppose assez souvent, par exemple, la difficulté de la prévision météorologique à la facilité, ou plutôt au succès, par exemple, des prévisions astronomiques et aux prévisions du mouvement des planètes et des satellites. On peut prévoir des éclipses plusieurs siècles ou millénaires à l'avance. Enfin, on n'a pas encore prévu d'éclipses plusieurs millénaires à l'avance, mais en repassant, en allant dans le passé, on peut dire qu'il y a dû y avoir une éclipse à telle époque, à tel jour, à telle heure, et en regardant dans les documents qui ont été laissés par les astronomes chaldéens ou chinois il y a plusieurs millénaires, il faut voir que l'éclipse a effectivement été observée. On sait maintenant que le système solaire, le mouvement des planètes et des satellites est tout aussi, en un sens, tout aussi chaotique que le mouvement de l'atmosphère. La seule différence, c'est que les échelles de temps sur lesquelles l'imprévisibilité ou la difficulté à prévoir agit sont beaucoup plus grandes. Dans ce qui concerne l'atmosphère et pour l'incertitude de fait sur l'état présent de l'écoulement, l'imprévisibilité joue sur des échelles de quelques jours. En ce qui concerne le système solaire, l'imprévisibilité ne joue pas sur quelques jours, sur quelques années, sur quelques centaines ou sur quelques milliers d'années, mais elle joue sur des échelles de centaines de milliers d'années, de centaines de millions d'années. Si on ne pourrait pas prévoir l'état de la position exacte des planètes et de leurs satellites à échéance, mettons, de 500 millions d'années. Donc en un sens, avec des échelles de temps totalement différentes, le problème, il y a aussi pour le système solaire, réputé très prévisible, une limite à la prévisibilité due à l'incertitude sur les conditions initiales. Alors dans le cas de l'atmosphère, l'imprévisibilité de l'écoulement atmosphérique en fait avait été pressentie bien avant les moyens puissants qu'ont fourni les calculateurs modernes. Et le mathématicien Henri Poincaré, qui s'était intéressé au départ justement à la stabilité du système solaire et à la possibilité de prévoir l'évolution du système solaire à longue échéance, avait mis en évidence, alors de façon théorique et sans disposer des moyens très puissants que donne le calcul numérique, la propriété de sensibilité aux conditions initiales et en quelque sorte pressenti le chaos. Et il avait écrit explicitement, quelque part dans ses œuvres, une citation que je n'ai pas pu retrouver pour cette conférence, mais une citation dans laquelle il dit explicitement que la difficulté à prévoir, la difficulté à faire des prévisions météorologiques est très probablement due à une grande sensibilité aux conditions initiales et au fait qu'une petite erreur initiale, quand bien même les méthodes dont il disposerait seraient parfaites, serait une petite incertitude sur les conditions initiales, doit conduire rapidement à une grande incertitude sur l'évolution future de l'atmosphère. Bon, alors, cela étant dit, et ayant mis en évidence cette grande sensibilité aux conditions initiales, comment s'y prend-on en pratique pour effectuer des prévisions météorologiques ? Et comment, pour étudier, même plus de façon générale, pour étudier d'un point de vue scientifique, l'écoulement atmosphérique ? Alors, fondamentalement, en ce qui concerne la physique, les lois physiques qui régissent l'écoulement, il n'y a aucun mystère. Tous les scientifiques admettent que l'atmosphère et l'écoulement atmosphérique sont régis par des lois physiques formulées et explicitées depuis longtemps, et que ces lois physiques sont des lois extrêmement simples et absolument générales. Alors, je les ai écrites ici, il y a des équations, ceux qui connaissent les mathématiques et la physique comprendront ce que veulent dire ces équations, mais c'est sans réelle importance. Le premier de ces lois physiques, c'est simplement la loi de conservation de la masse. La masse se déplace du fait des mouvements, mais il n'y a ni création ni perte de masse. Et plus précisément, si je considère un volume d'atmosphère pendant un certain temps, la variation de la masse contenue dans ce volume, c'est égal à la masse qui est entrée dans ce volume pendant le temps que je considère, moins la masse qui est sortie. Et c'est ça qui exprime cette équation dite de continuité, qui exprime simplement la conservation de la masse. Le deuxième principe, c'est le principe de conservation de la quantité de mouvement, ou la loi de Newton de la mécanique, qui dit que l'accélération d'une particule fluide en l'occurrence est égale à la somme des forces qui s'exercent sur cette particule. Et si on se place dans, par rapport, si on étudie le mouvement par rapport à la Terre en rotation, eh bien, il faut prendre en fait que la Terre rentre, rotation, et il apparaît dans l'équation appropriée correspondante une force, la force de Coriolis de la rotation de la Terre, qui a beaucoup, une importance capitale pour l'écoulement météorologique, l'écoulement atmosphérique ou l'écoulement océanographique. Et c'est lui, c'est quand j'expliquais tout à l'heure les variations en latitude, le fait que le déplacement d'une particule en latitude implique nécessairement l'apparition d'un mouvement en longitude, c'est le fait du fait de la force, enfin mathématiquement c'est décrit par la force de Coriolis. Le principe de conservation de l'énergie qui dit simplement que l'énergie interne d'une particule fluide, c'est-à-dire en fait sa température, est simplement la somme des efforts exercés sur cette particule et des termes et des quantités d'énergie qu'elle reçoit par rayonnement ou par conduction thermique, soit qu'elle rayonnement thermique qui vient un rayonnement qui vient du soleil et qu'absorbe la particule, soit un rayonnement que la particule elle-même émet vers des particules voisines et vers l'extérieur. Alors entre ça, il faut ajouter évidemment le fait qu'il y a l'eau, qu'il y a de l'eau de l'atmosphère, qui est très important. Il faut donc aussi suivre en utilisant fondamentalement le principe de conservation de la masse en permanence une description de la quantité d'eau présente dans l'atmosphère. Alors, ces principes, en tant que principes physiques, sont extrêmement bien connus depuis maintenant plus de 100 ans, formulés mathématiquement de façon extrêmement précise. Et du point de vue purement scientifique, ce que veut chercher à faire le dynamicien d'atmosphère, c'est simplement tirer les conséquences de ces principes quant au comportement de l'atmosphère ou, pour d'autres fluides, des océans. Mais il ne cherche pas à inventer, à trouver des lois physiques nouvelles. En l'occurrence, il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait des phénomènes qui ne soient pas explicables sur la base de ces principes. Alors dans la pratique, pour aller plus loin, et en particulier pour faire de la prévision météorologique, il est absolument indispensable le seul moyen technique est d'avoir recours aux moyens de calcul puissants qu'offrent les calculateurs modernes. Et la météorologie, et maintenant l'étude de l'atmosphère, l'étude du climat, sont maintenant dépendantes à un très fort, très grand degré des moyens de calcul. Alors l'idée d'utiliser ces lois physiques fondamentales, et puis de les utiliser pour faire les calculs qui permettent de calculer l'évolution de l'atmosphère ou de faire des études permettant d'élucider plus précisément certains mécanismes atmosphériques est ancienne. En fait, elle est aussi ancienne que la formulation explicite de ces lois physiques, au moins dans le cas des fluides. Ça a été fait dans la première moitié du 19e siècle. La première tentative, si le mot tentative est approprié, a été effectuée vers les années 1920 par un mathématicien anglais, Lewis Fry Richardson, qui était un personnage assez excentrique et assez curieux, qui a fait beaucoup de choses assez originales dans sa vie, et qui a passé plusieurs mois de sa vie à effectuer à la main, avec son crayon et sa table de logarithme, les calculs, pas prévision, parce que c'était dans le passé, avait effectué a posteriori l'évolution de l'écoulement atmosphérique sur une période de 6 heures sur l'Europe occidentale. Et il a obtenu des résultats absurdes, des variations de pression absolument insensées de 100 millibars, les résultats étaient parfaitement absurdes. Ça ne l'a pas empêché d'écrire un bouquin dans lequel il décrit le détail de ces opérations. La raison pour laquelle ces résultats ne marchaient pas, c'est qu'il avait pris un pas dans ces calculs-là, on calcule l'évolution de l'atmosphère de proche en proche avec un pas temporel. Il avait pris un pas temporel trop grand par rapport au pas d'espace, enfin pour des raisons purement numériques, le calcul qu'il faisait conduisait à une instabilité non physique. Alors il était bien conscient évidemment des limitations des moyens de calcul et il envisageait, pour faire de la prévision météorologique du futur, de réunir un... l'idée était que l'atmosphère serait divisée en un certain nombre de boîtes, en quelque sorte, ce qu'il fait maintenant sur les calculateurs électroniques. C'est une représentation schématique d'une telle division de l'atmosphère en boîtes. Typiquement, dans les modèles actuels utilisés pour la prévision météorologique, pour les modèles les plus puissants, chaque boîte a une dimension horizontale de l'ordre typiquement d'une centaine de kilomètres. Ce qui est beaucoup plus grand que les phénomènes météorologiques individuels, si j'entends par phénomènes météorologiques les orages, par exemple, c'est plus petit que les dépressions ou les anticyclones, c'est beaucoup plus grand que les orages individuels. Dans la direction verticale, on a typiquement 30 ou 50 couches sur une épaisseur de quelques dizaines de kilomètres, typiquement une épaisseur d'un kilomètre. Et à l'intérieur de chacune de ces boîtes, on calcule l'évolution de la température moyenne des deux composantes, de la moyenne des deux composantes des voies horizontales. On fait des approximations qui font qu'il n'est pas nécessaire de connaître explicitement la composante verticale, et puis de contenu en humidité. Et puis, de proche en proche, à l'aide des, dans chaque boîte, en utilisant les valeurs de la boîte voisine, de proche en proche, on calcule l'évolution de l'écoulement à partir de conditions de départ données, avec un pas temporel qui, typiquement, est de l'ordre de 15 minutes, ou dans certains cas, de 20 minutes, 30 minutes, de proche en proche, sur alors 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 24 heures, 48 heures, et certains modèles tournent comme ça jusqu'à 7, 8, 10 jours. Pour ce qui est des applications proprement météorologiques, ils n'ont jamais au-delà de 10 ou maximum 15 jours. Pour des applications de type climatologique, alors les mêmes modèles, en général avec une résolution plus large, peuvent être intégrés, c'est le mot, sur des périodes beaucoup plus longues, atteignant maintenant des dizaines, des centaines ou même des milliers d'années. Alors Richardson, qui n'avait pas de calculateur électronique, imaginait un certain nombre de calculateurs humains réunis dans une grande salle, un peu similaire à celle-ci, chacun des calculateurs étant représentant un point du maillage défini dans le volume de l'atmosphère, effectuant les calculs à partir des valeurs que lui auraient fournies ses voisins, et puis il y aurait eu un chef d'orchestre qui aurait claqué dans ses mains, et puis qui aurait donné à ce moment-là, les différents calculateurs auraient fourni les valeurs, donné les valeurs qu'ils avaient calculées à leurs voisins, et puis la prévision aurait donc progressé de proche en proche à l'aide de ces milliers de calculateurs réunis dans une salle. L'arrivée, le développement des calculs électroniques a relancé la chose. Les calculateurs électroniques, vous le savez, probablement ont été développés dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, à l'Institute for Advanced Study à Princeton, sous la houlette de la direction d'un mathématicien d'origine hongroise, John Weinmann, qui a développé les premiers calculateurs électroniques à des fins purement scientifiques. Et parmi les applications scientifiques qu'il envisageait, il y avait la prévision météorologique. Von Neumann est mort assez rapidement, le projet a quitté Princeton, mais il a continué, et la première prévision météorologique numérique faite sur un calculateur, la première prévision dans l'avenir, a été effectuée en 1950. On en célèbre cette année le 50e anniversaire. Alors depuis, du fait de l'augmentation des moyens de calcul, de l'amélioration des observations, mais cela, ça n'était qu'un aspect secondaire, de l'amélioration des méthodes de calcul, indépendamment des moyens de calcul, de l'amélioration des modèles qui permettent d'introduire progressivement dans les modèles de prévision des phénomènes physiques, de la description de phénomènes physiques de plus en plus importants. Par exemple, au début, le cycle de l'eau n'était pas représenté, il est maintenant représenté. L'interaction entre l'atmosphère, les échanges entre l'atmosphère et les océans n'étaient pas représentés au début, maintenant ils sont représentés. Parmi les choses que maintenant on introduit progressivement dans les modèles, il y a par exemple l'interaction entre l'atmosphère et la végétation. La végétation est d'abord un réservoir d'humidité, donc elle est à la fois elle est une source d'humidité potentielle pour l'atmosphère. Et la couleur de la végétation aussi, la couleur de la végétation a beaucoup d'importance sur les propriétés d'absorption ou de réflexion du rayonnement solaire. C'est une chose qu'il faut prendre en compte. Et en fait, la forme de la végétation et la nature a aussi un impact important sur les forces de frottement exercées par le sol sur l'atmosphère. Et tout cela, dans les modèles, doit être pris en compte. Dans les premiers modèles, ça n'avait aucune importance de négliger la végétation parce qu'il y avait des tas de sources d'erreurs beaucoup plus grandes. Mais maintenant, on est arrivé à un stade où il est important de mettre en compte la végétation. Alors, ceci représente par exemple une grille d'un modèle de prévision météorologique, le modèle Arpège, celui que la Météo France utilise pour ses prévisions quotidiennes. Alors, ce modèle a la particularité qu'il a dans l'espace une résolution variable et qu'il a une résolution plus fine sur l'Europe occidentale. Alors, les modèles de météorologie, ceux qui sont destinés à faire des prévisions météorologiques à l'échéance de quelques jours, mettons 4, 5, 6, 7 jours, couvrent l'ensemble de l'atmosphère terrestre. Ils ne sont pas limités à une région. Certains modèles destinés à des prévisions plus locales et qui alors peuvent avoir une résolution plus fine, sont limités à une région plus petite. Mais l'existence de frontières le long desquelles il est nécessaire de définir en quelque sorte ce qui vient de l'espace extérieur pose des problèmes tellement compliqués que dès qu'on a l'intention d'aller à échéance de quelques jours, il est jugé préférable de prendre des modèles globaux qui couvrent l'ensemble de tout le volume de l'atmosphère. Alors je vous dis, la résolution moyenne pour les modèles le plus puissant est typiquement de l'ordre maintenant de 100 km dans la direction horizontale. Alors, pour ce qui est des performances de ce genre de modèle, cette figure montre, encore une fois encore pour le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, l'évolution de la qualité des prévisions depuis maintenant une vingtaine d'années que ce centre produit des prévisions quotidiennes. Alors vous avez ici les années, 1980-2000. Vous avez ici, en la coordonnée sur l'axe vertical, les échéances. Et la courbe, les courbes ici représentent le nombre de jours, l'échéance, à laquelle, en moyenne, une certaine mesure de la qualité de la prévision, un certain coefficient de corrélation, atteint la valeur un peu magique de 60%, qui est considérée en quelque sorte comme celle des prévisions utiles. C'est un peu arbitraire comme mesure, mais c'est la même mesure qui est prise tout au long de la période. Donc l'évolution de cette mesure au cours du temps, elle, a un sens. Alors la courbe bleue représente des moyennes effectuées mois par mois, et vous voyez qu'il y a une grande fluctuation, et qu'en particulier, au regard de cette mesure, la prévision est nettement meilleure, atteint des échéances de 7 jours, 8 jours, là on avait plus de 8 jours et demi, en début d'année, enfin dans les mois d'hiver. Il s'agit de l'hémisphère nord, hein, c'est des courbes relatives à l'hémisphère nord, dans les mois d'hiver. Alors ceci est assez facilement compréhensible. Je vous ai dit que le moteur premier de la circulation, c'était la différence de température entre les basses latitudes et les hautes latitudes. Ce moteur premier, cette différence de température, est plus grande dans les basses latitudes et plus grande dans l'hémisphère d'hiver que dans l'hémisphère d'été, avec la conséquence que le moteur de la circulation est plus intense dans l'hémisphère d'hiver. Et ceci rend plus facile la prévision en hiver par cette mesure en comparaison de la prévision en été, où d'une part le moteur de la circulation, la différence de température est moins intense, et où d'autre part le cycle diurne est plus important, le soleil monte plus haut, et des phénomènes à plus petite échelle, comme par exemple la convection et la formation de nuages type cumulus et d'orage, qui ne peuvent pas être résolus explicitement avec les modèles actuels, prennent relativement plus d'importance. La courbe bleue, la courbe rouge représente les mêmes mesures, moyennées par une moyenne glissante sur une année, et vous voyez une longue progression depuis 5 jours,5 en 1980 jusqu'à 7 jours maintenant, une progression d'un jour et demi, si vous voulez juger, si vous êtes libre de juger si vous considérez ça comme un progrès important ou peu important, mais il y a un progrès net dans la qualité des prévisions météorologiques. Alors, je vais maintenant parler de quelques petites choses un peu plus spécifiques. Les tempêtes qui ont frappé la France au mois de décembre 1999 ont évidemment fait l'objet, d'abord ont été très destructrices, exceptionnellement destructrices, et ont évidemment fait l'objet de toutes sortes d'études scientifiques et en particulier de prévisions des différents genres, a posteriori. Alors ceci représente, a posteriori, ce qu'on estime être la meilleure description de la circulation atmosphérique correspondante à l'instant le plus intense de ces tempêtes. Alors la première tempête qui a frappé la France le 26 décembre, dans le nord de la France le 26 décembre de la matinée, vous avez donc ici la situation telle qu'elle a été évaluée a posteriori. Il y a toujours une incertitude, hein, même a posteriori, c'est ce qui était exactement l'état de l'écoulement. Le 26 décembre à 6 heures, avec une dépression, avec un minimum de l'ordre de 970 millibars, alors la pression au sol est mesurée en millibars, la pression est mesurée en millibars ou en hectopascal, c'est la même chose. Le minimum, là, est évalué à environ 970 millibars et est associé à un mouvement tourbillonnaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ceci représente la deuxième tempête qui a atteint son maximum le 27 décembre à 18h, un peu plus au sud, et ceci représente encore a posteriori l'état estimé de la circulation au moment le plus intense de la tempête. Alors, ceci représente maintenant les prévisions effectuées par le modèle de Météo France, le modèle Arpège opérationnel de Météo France, à partir des situations le 25 décembre à 12h. Donc, il s'agit ici d'une prévision à 18h d'échéance et il s'agit ici d'une prévision à 54h d'échéance. Alors, celle-ci, si vous la comparez à ce que j'ai présenté sur la figure précédente, constitue la position du minimum et l'intensité sont précis et cette tempête a fondamentalement été prévue correctement par Météo France. L'intensité des rafales de vent les plus violentes a été sous-estimée, mais il s'agissait encore en l'occurrence d'un phénomène tellement exceptionnel qu'il eût été peu, enfin que l'incertitude était de toute façon absolument inévitable. La deuxième de ces tempêtes, elle, a été prévue beaucoup moins bonne. Là, il s'agit d'une prévision à 54 heures, mais même une prévision à une échéance plus courte n'était pas sensiblement meilleure. Cependant, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais il se trouvait que les systèmes automatiques de prévision, dans lesquels les nouvelles observations sont constamment réintroduites, les nouveaux systèmes automatiques de prévision, ces modèles de prévision avaient rejeté certaines observations que les prévisionnistes de services chargés de produire effectivement la prévision sur la base des résultats du modèle ont jugé être exacts et ont prévu une tempête plus intense que ce que prévoyait le modèle numérique lui-même. Je signale à ce propos d'ailleurs que depuis ces événements, Météo France a introduit dans ce système de prévision un système d'introduction des nouvelles observations, d'assimilation, qui était déjà prêt, mais qui, a posteriori, donne une prévision même bien meilleure de la deuxième tempête de décembre. Alors, au-delà de la prévision à quelle échéance, que peut-on faire ? Que peut-on dire ? Alors, je vais simplement parler d'un autre type de prévision, qu'on peut appeler la prévision saisonnière. Une question générale est, que peut-on prévoir et quelle échéance ? On ne peut pas prévoir le détail des dépressions et des anticyclones à échéance de plus de quelques jours. Mais il y a des choses qui sont prévisibles. Le cycle des saisons est évidemment prévisible. Mais le cycle des saisons ne dépend pas des conditions initiales de l'écoulement. Il est déterminé par les variations saisonnières de l'installation. Donc, c'est autre chose. Mais certains phénomènes sont prévisibles, et vous avez certainement entendu parler du phénomène El Niño, qui se produit de temps en temps, pas régulièrement, mais disons en moyenne tous les 5 ans ou quelque chose comme ça, dans la partie orientale du Pacifique équatorial, dans lequel les eaux chaudes, qui viennent en général d'un courant du sud qui longe le courant de Humboldt qui longe les côtes d'Amérique du Sud, les eaux froides qui viennent du sud par le courant de Humboldt, sont remplacées par des eaux chaudes qui viennent des parties plus occidentales de l'océan Pacifique. Ce phénomène est associé à un changement important des conditions météorologiques dans les régions avoisinantes de l'Amérique du Sud, le Pérou et l'Équateur, et on s'est rendu compte depuis quelques années qu'il était aussi associé à des changements dans l'ensemble des bassins pacifiques. Alors, ceci représente des résultats obtenus par un modèle d'une nature un peu différente de ceux dont je vous ai parlé, un modèle qui représente à la fois la circulation de l'atmosphère et la circulation de l'océan. L'océan est un système fluide qui a des propriétés similaires à celles de l'atmosphère et qui a aussi des propriétés de prévisibilité limitées. Mais l'échéance de prévision, au lieu d'être quelques jours, est plutôt de quelques mois dans l'océan. Et on développe maintenant, mais c'est encore une chose qui est à un stade de développement, des modèles qui représentent l'atmosphère de façon simplifiée, mais qui représentent aussi la circulation océanique et qui sont utilisés à titre actuellement expérimental, mais ça viendra certainement à une phase opérationnelle dans les années à venir, des prévisions de type dites saisonnières, destinées à prévoir à échéance de 1, 2, 3, 6 mois un peu plus, non pas le détail de la météorologie, non pas le détail des tempêtes, mais les conditions moyennes de la circulation atmosphérique et océanique. Et alors ceci représente des prévisions de précipitations effectuées pour la période de décembre 1997 à février 1998, c'est la période du dernier phénomène El Niño, qui a d'ailleurs été particulièrement intense, à partir de conditions au 1er octobre 1997. Donc il s'agit de prévisions à échéance de 3, 4 et 5 mois. Et alors vous avez ici, les prévisions là, c'est fait en termes de probabilité, vous avez ici des prévisions de probabilité de précipitation plus grande que la moyenne saisonnière ou plus petite que la moyenne saisonnière, et les précipitations observées après a posteriori sont en bon accord avec les prévisions. Donc ceci révèle un type de prévision possible à échéance de quelques mois, en l'occurrence les précipitations associées au phénomène El Niño. Alors à présent, ce phénomène El Niño est le plus facilement prévisible de ces phénomènes de nature saisonnière. Incidemment, il n'a encore eu aucun impact identifié sur la météorologie de l'Europe. Le phénomène El Niño a un impact important sur le pourtour du Pacifique, mais il n'a encore identifié aucun impact sur la météorologie de l'Europe. Là, manifestement, il y a des possibilités de prévision à échéance saisonnière qui certainement se développeront dans le futur. Alors, je vais terminer maintenant en disant un peu simplement quels sont les principaux problèmes et les principales limitations à l'étude de l'atmosphère et en particulier aux capacités de prévision météorologique. Il n'y a actuellement plus tellement de limitations dues aux moyens de calcul. Les moyens de calcul sont maintenant suffisamment importants pour que l'on puisse, en matière de météorologie, faire l'essentiel de ce que l'on veut. Je dis actuellement, parce qu'il y aura de plus en plus d'observations dans l'avenir, et quand il n'y aura plus d'observations, la situation peut changer. Il y aura évidemment beaucoup plus d'informations à traiter. Par contre, on est encore assez fortement limité en matière d'observations. Les observations satellitaires se développent, il y a plus d'observations satellitaires, mais il y a indiscutablement encore des limitations en matière d'observations. Un autre aspect très important qui est en cours de développement, c'est la détermination non seulement de l'état futur de l'écoulement pacifique, mais de l'incertitude associée. Puisque l'écoulement en prévision météorologique est difficile, on ne peut pas, il est extrêmement souhaitable de prévoir non seulement un état, mais de prévoir l'incertitude associée. Et comme il s'avère que la qualité des prévisions météorologiques, qui est en moyenne, qui en gros les prévisions météorologiques sont utiles, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, actuellement je suis à échéance d'environ 7 jours, mais la qualité des prévisions individuelles varie extrêmement d'une situation à l'autre. Et il peut être extrêmement intéressant de déterminer l'incertitude de ceci. Et alors ça, c'est un domaine en pleine expansion, un domaine dans lequel on ne cherche pas à déterminer un état futur de l'atmosphère, mais on cherche à déterminer l'incertitude, enfin fondamentalement une distribution de probabilité sur l'état de l'atmosphère. Ceci est un domaine en pleine activité. Alors il y a d'autres choses, il y a encore beaucoup de phénomènes météorologiques qui sont assez mal connus dans leurs détails, en quelque sorte, la physique et des processus dont était leur siège, typiquement les cyclones tropicaux, qui sont assez bien connus, mais le détail de ce qui se passe, en particulier en termes de bilan énergétique à l'intérieur d'un cyclone tropical, est encore assez mal connu. Et là encore, il y a énormément de progrès à faire dans la connaissance effective des phénomènes météorologiques spécifiques. Alors ça se fait de plusieurs manières, par des campagnes de mesure, par des études théoriques, et aussi, là encore, à l'aide de la simulation numérique, qui reste un élément absolument essentiel de l'étude de la météorologie, et d'ailleurs aussi de la circulation océanique et de la climatologie en général. Très bien.
Vous avez parlé d'une échéance de prévision de 7 jours. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait une limite à la prédictibilité en ce moment et si on pouvait envisager en affinant la précision sur les conditions limites et en développant les calculateurs, la puissance des calculateurs, est-ce qu'on pourrait repousser encore cette limite ?
Bon. Alors effectivement, c'est une question absolument très importante. Est-ce qu'il y a une limite ultime ? Alors, dans la compréhension que l'on a des choses, une petite perturbation, une petite incertitude sur les conditions initiales conduit rapidement à une incertitude de plus en plus grande. Et le problème est extrêmement, la situation est d'autant plus grave qu'en quelque sorte, la croissance de l'échéance de prévision est logarithmique, c'est-à-dire que si je divise par deux l'erreur initiale, eh bien, je ne gagnerai en termes d'échéance de prévision que quelque chose de l'ordre d'un jour et demi ou quelque chose comme ça, et chaque fois que je diviserai par deux, je ne diviserai, gagnerai qu'un jour et demi au maximum. Et compte tenu de ce taux de croissance rapide de l'erreur, des moyens de calcul dont on dispose ou dont on ne peut jamais espérer disposer, des limitations qui semblent inévitables quant à la connaissance détaillée de tous les processus qu'il peut avoir dans l'atmosphère, peut-être le siège, on estime qu'il y a une limite qui n'est peut-être pas théorique, mais qu'en tout cas, il est absolument déraisonnable de penser qu'on ne pourra jamais franchir, pour ce qui est des phénomènes météorologiques individuels qui se situent quelque part entre 10 et 15 jours. Il n'y a aucun doute que la limite de 7 jours dont j'ai parlé peut être encore étendue. Mais le détail des phénomènes météorologiques, il y aura une limite qui se situera quelque part, on estime, entre 10 et 15 jours. Ce qui ne veut pas dire que tout est imprévisible. J'ai parlé des précipitations associées à El Niño. Il y a certainement des caractères de l'écoulement, par le détail de l'écoulement, qui sont prévisibles à des échéances plus longues. Et déterminer ce qui est prévisible et à quelle échéance est actuellement un des problèmes les plus importants de la météorologie.
Une dame, ah oui, allez-y, vous avez le micro, allez-y, oui.
Bonjour, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je voudrais savoir ce que vous pensez des calendriers qu'on vend dans le commerce et qui prévoient les principales données du temps sur l'année, s'il vous plaît, et qui semblent, puisque je les achète, les prévisions semblent être exactes.
Oui, bon,
c'est merci.
Les
prévisions.
c'est des prévisions à échéance donc, d'une année au moins. Enfin, surtout, ce sont des calendriers qu'on peut acheter au début de l'année, une période de l'année, et qui donnent les prévisions sur tout, pour toute l'année à venir. C'est cela. Non, bah. Eh bien, je pense que, en dehors du cycle saisonnier, il n'y a pas de valeur dans ces prévisions. Ces prévisions, autant que je les connaisse, sont souvent exprimées en termes suffisamment imprécis pour qu'après coup, on puisse dire qu'après tout, ce n'était pas faux. Bon, je dois dire que je n'ai jamais vu d'études systématiques, rigoureuses et méthodiques faites quant à la qualité de ces prévisions, soit parmi ceux qui les produisent, soit parmi ceux qui estiment qu'il n'y a pas grande valeur et qui voudraient prouver qu'il n'y a pas grande valeur. Je veux dire que parmi cette deuxième catégorie de personnes, personne ne s'est, à ma connaissance, fait le travail de vraiment soumettre ses prévisions à échéance de plus, disons, qu'une quinzaine de jours à une étude systématique rigoureuse. Peut-être faudra-t-il le faire. Mais enfin, pour ce qui est de mon avis, je pense qu'il n'y a pas, en dehors, si vous voulez, du cycle météorologique, du cycle saisonnier, il n'y a pas de valeur dans ces prévisions.
Quelles sont les incidences de ces phénomènes qui se produisent pas aléatoires, quelquefois il est bien prévisible parce qu'on a réussi à l'enchaîner autour du monde 21 jours d'affilée pour faire ce tour du monde. Est-ce qu'il y a une incidence sur la météorologie et comment finalement elle se manifeste, surtout qu'il est dans la zone plutôt de notre latitude.
Oui, alors, le jet stream est un courant atmosphérique extrêmement intense qui est présent de façon générale, mais pas absolument permanente et partout, dans les latitudes moyennes, qui par exemple ici, dans cette situation-là, constitue le courant que vous voyez ici. Bon, alors ce courant est assez fluctuant au cours du temps. Sa position et son intensité oscillent, et il n'est pas même nécessairement toujours identifiable. Par exemple, dans cette situation météorologique, le courant ici est assez peu intense. L'intensité du courant est plus les lignes que vous avez ici sont resserrées, plus le courant est intense. Dans cette région-là, au-dessus de l'Asie, ce jour-là, on ne pouvait pas vraiment dire que le jet stream était présent. Il y a des circonstances où le jet stream se dédouble en deux courants intenses. Là, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas dans ce jour particulier. Mais... Alors, l'incidence, le jet stream fait partie de la circulation. Il fait partie de l'ensemble, en quelque sorte, des situations météorologiques. Quant à ses incidences, c'est difficile à dire, puisqu'il est en interaction, il est une partie de la circulation qui est en interaction et évolution permanente. Ce qui est sûr, c'est que le jet stream peut être une zone d'instabilité et de cyclogénèse, c'est-à-dire de production, de dépression qui peuvent éventuellement être associées à des tempêtes, en particulier sur l'océan Atlantique. Donc, il fait partie de l'ensemble des gloulements atmosphériques, il fait partie de ce que l'on doit prévoir. La prévision du jet stream lui-même est, dans certains cas, importante. Elle l'est, par exemple, pour la navigation aérienne. Quand des avions traversent l'Atlantique, ils souhaitent éviter le jet stream vient de l'Ouest, ils souhaitent l'éviter quand ils vont vers l'Amérique, et au contraire en profiter quand ils vont vers l'Europe. Donc c'est très important pour eux de savoir où le jet stream se trouve exactement. Maintenant, les itinéraires d'avion sont décidés au moment du décollage et peuvent être modifiés en cours de route, donc c'est de la prévision quasiment instantanée. De toute façon, les pilotes d'avion savent par leurs collègues qui arrivent avant qu'eux-mêmes partent, quelle est la situation météorologique et le vent ils ont rencontré. Donc il s'agit là de la prévision instantanée, peu difficile, mais extrêmement importante pour une application particulière. Cela étant, le jet stream fait partie de la circulation, il fait partie des choses qui doivent être prévues, et il peut être une zone d'instabilité particulière.
Une question là, monsieur, levez-vous. Merci.
Oui, s'il vous plaît. Lorsque j'ai eu une douzaine d'années, je me trouvais en vacances précisément dans la Sarthe. Mmh. Et je sais que vous y êtes né puisqu'on l'a annoncé au départ. Oui. Cela étant, au début d'un orage, j'ai vu apparaître sur les fils de fer qui entouraient un champ une boule de feu, oui. J'appelle ça d'une façon vulgaire, bien sûr, de la grandeur d'un ballon de rugby, plutôt, qui s'est déplacé lentement sur une distance d'environ, je dirais, 20 à 30 mètres, et puis a disparu. Oui. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, m'expliquer comment se forme ce phénomène ?
Merci. Il s'agit de la foudre en boule, une espèce de boule de feu qui se produit dans certains phénomènes rares, dont l'existence est même suffisamment rare et suffisamment fugitif et difficile à, si vous voulez, enregistrer de façon indubitable, pour que son existence même soit contestée par certaines personnes. Vous l'avez observé, je vous crois parfaitement, moi je suis convaincu de la réalité de ce phénomène. C'est la foudre en boule qui, il y a des témoignages de boules de feu qui entrent dans une maison et qui partent par la cheminée, enfin des choses assez similaires. Mais c'est évidemment un phénomène lié à l'électricité atmosphérique et on ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas l'expliquer en grande partie parce que justement il est tellement difficile à observer qu'on n'a pas pu faire des études scientifiques précises sur ce phénomène. Personnellement, je ne connais pas particulièrement les phénomènes extrêmement complexes d'électricité atmosphérique, qui ont peu de choses à voir avec le domaine que je connais mieux, la météorologie à grande échelle. Je sais simplement que l'hypothèse a été émise, que c'est la foudre en boule, est en fait une boule de plasma, c'est-à-dire de gaz dont les atomes auraient perdu leurs électrons sous les effets électriques les intenses associés à l'électricité atmosphérique, ce qui, au regard de ce que disent certains physiciens qui connaissent mieux la question que moi, pourrait expliquer certaines des propriétés de ce phénomène. Donc ma réponse est malheureusement, à mon regret, assez se limite en gros à dire que ce phénomène, enfin jusqu'à présent, on en connaît peu de choses. Autant que je sache, ça n'est pas directement lié à l'éclair. C'est comme l'éclair, un phénomène d'électricité atmosphérique. Dans des conditions de convection intense, lorsque le sol a été chauffé, c'est un phénomène qui se produit particulièrement sur nos latitudes en été, il se produit des espèces de cheminées ascendantes d'air qui a été chauffé au niveau du sol, entouré d'air subsidant qui descend autour. Le phénomène est un peu similaire à ce que j'ai décrit, sauf que là, la différence de température est dans la direction verticale au lieu d'être dans la direction horizontale. Ce phénomène d'ascendance est le même que l'on observe, alors de façon beaucoup plus élémentaire, dans simplement une casserole d'eau que l'on fait chauffer sur la gazinière. On observe, si on visualise le mouvement en mettant dedans un liquide coloré, eh bien, on voit le fluide qui monte au milieu de la casserole et puis qui redescend sur les côtés. Eh bien, la même chose se produit dans l'atmosphère, et c'est ça qui était à l'origine des cumulonimbus, ces espèces de gros nuages en forme de tours qui se produisent surtout en été et qui sont à l'origine des orages. Alors, ce phénomène de convection est associé à des phénomènes d'électricité atmosphérique, de transport de charge électrique et d'échange de charge électrique entre les atomes qui constituent l'air et les molécules qui constituent l'air, est à l'origine des éclairs et aussi de le phénomène de foudre en boule que vous avez observé. Il n'est pas, autant que je sache, lié à l'éclair. Il peut y avoir des éclairs sans foudre en boule et il peut y avoir de la foudre en boule sans éclair, autant que je sache. Mais c'est dans la même classe de phénomène, d'électricité atmosphérique.
Une question là-haut en haut de l'amphi. Levez-vous, monsieur, parce que là, on vous aperçoit à peine. Voilà, merci.
Oui, bonjour, Jean-Marie Leclerc. Je voudrais vous poser une question d'ordre plus général. Moi, je suis un peu surpris en matière de prévision. Il s'agit bien de prévision, bien entendu. Qu'au niveau européen, il y a quand même l'Europe est en train de se faire, j'espère qu'elle se fera plus vite possible, qu'on n'ait pas encore compris le bon sens de mettre ces synergies ensemble pour faire justement la gestion de l'incertitude. Vous avez parlé de Reding, qui est un des piliers évidemment en Europe de la prévision météorologique. Je pense même qu'ils avaient annoncé avec beaucoup plus de précision, sans faire de procès entre la France et l'Angleterre, le phénomène de décembre. Donc comment se fait-il qu'on n'ait pas encore mis au point ou en commun des synergies pour justement gérer les domaines d'incertitude en prévision météorologique ? Ça, c'est une première question, bon. Je pense. Et la deuxième, mais qui sera très rapide, je croyais comprendre qu'il y a beaucoup plus de chances en ballon sonde à 30 km qui travaille à 30 km par rapport au satellite qui travaille à 150 km, d'avoir des précisions beaucoup plus importantes en tant que ballon que par rapport au satellite.
D'accord. Bon, alors première chose, pour ce qui est de la synergie à l'échelle européenne pour la météorologie, alors je crois que je peux répondre que si, cet effort est fait. Le centre de Reading est un centre européen, pas du tout anglais, il est installé en Angleterre, mais il n'est pas du tout anglais, donc il n'est pas en tant que tel. Il a été créé en 1975 et c'est un exemple d'organisme européen qui fonctionne, je crois, très bien. Ce centre est une émanation fondamentalement des services météorologiques des différents pays et il fournit ces informations, ces prévisions, non pas au public directement, mais aux services météorologiques qui ensuite publient leurs propres prévisions. Alors peut-être est-il souhaitable de passer à un stade où ce passage obligatoire par les services météorologiques nationaux ne sera plus nécessaire. Les petits pays l'ont compris et les pays scandinaves associés à d'autres pays comme l'Irlande et quelques autres ont renoncé pas complètement, ils ont encore des services météorologiques en ce qui concerne les questions d'emploi, ils ont toujours. Mais pour ce qui est du travail effectif, travaillent de façon pleinement coopérative. Alors vous avez évoqué plus particulièrement la question de l'incertitude des prévisions météorologiques. Eh bien, le Centre européen de Reading, précisément, est engagé dans un travail extrêmement important d'évaluation de l'incertitude associée aux prévisions météorologiques. Il est actuellement le centre dans le monde qui est le plus actif dans ce domaine. Et les 32 prévisions que je vous ai présentées au début de ma conférence, ont été produites précisément dans le cadre de ce programme d'évaluation de l'incertitude des prévisions météorologiques. Si ces 32 prévisions ont été produites, c'est pour précisément avoir une estimation de l'incertitude sur la prévision correspondante. Et cet effort continue. Et actuellement, maintenant, le Centre européen de Reading ne fait plus 32 prévisions. Il en fait actuellement 50 tous les jours. Alors, il fait une prévision avec modèle à très haute résolution et puis 50 autres prévisions avec un modèle à plus basse résolution, beaucoup moins coûteux, dans le but d'obtenir une estimation de l'incertitude sur la prévision. Et les résultats sont encourageants. Il y a déjà une valeur objective indiscutable ces incertitudes sur la base de ces prévisions d'ensemble produites par le Centre européen de Reading. Donc je crois là que l'effort au niveau européen est fait, et en tout cas fait avec beaucoup plus d'efficacité que dans d'autres domaines. Cela étant, comme il s'agit d'un domaine essentiellement technique, ce serait bien le comble si les pays européens n'arrivaient pas à s'accorder assez bien sur un domaine pareil. La deuxième question, alors à vous toucher un point non moins important, mais tout à fait différent, celui de la qualité des prévisions effectuées par balancement des bas satellites. C'est exact. Les observations effectuées par balançonde sont plus précises et fondamentalement plus utiles que les observations effectuées par satellite. Le problème, et maintenant encore, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'apport des observations satellitaires est encore, dans la qualité des prévisions météorologiques, est encore assez faible, relativement. Je vais d'ailleurs présenter. Mais le problème, c'est que les ballons-sondes sont infiniment plus coûteux que les satellites. Lancer des ballons-sondes à une densité spatiale élevée supposerait soit qu'on ait sur tous les océans des ballons à partir duquel lancer des ballons-sondes, ce qui supposerait que le coût économique serait absolument faramineux au regard du coût des satellites, soit des flottilles de ballons à différents niveaux dans l'atmosphère. Si c'était des ballons permanents, les dangers pour la navigation aérienne seraient quand même pas négligeables. Lancer un satellite qui, lui, est au-dessus de l'atmosphère et qui me fait fondamentalement faire des mesures partout, est à long terme infiniment plus économique. Donc, en termes de qualité des prévisions individuelles, vous avez raison. Actuellement, les sondes faites in situ par des instruments ballons-sondes d'autres, enfin, les mesures faites in situ sont beaucoup plus précises et fondamentalement plus utiles, mais en termes de rentabilité économique, c'est bien le satellite qui est la voie de l'avenir. Et la qualité technique des observations satellitaires s'améliorera certainement au fur et à mesure des années. Alors à ce propos-là, puisque vous avez posé cette question de la qualité des prévisions, vous avez ici, ça me donne l'occasion de commenter cette figure, vous avez ici encore, pour le Centre européen de Reading, en anglais ECMWF, European Center for Medium Range Weather Forecasts. Alors, en fonction de l'échéance, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, sept jours, la qualité de la prévision a mesuré par ce coefficient de corrélation un peu magique dont je vous parlais. Alors, au début, la prévision est parfaite. Enfin, au bout d'une demi-journée, le coefficient est un peu moins de 100%. Et puis, à mesure que l'échéance augmente, statistiquement, la qualité de la prévision décroît pour atteindre cette valeur de 60% au bout de sept jours. Alors, vous avez ici la prévision utilisant toutes les observations disponibles. Et puis vous avez ici la qualité des prévisions, oui, en supprimant les radiosondes et en supprimant les satellites. Et vous voyez, enfin, ici, la différence est à peu près la même, mais l'hémisphère sud, alors là, les satellites deviennent extrêmement importants, et supprimer les satellites ont un impact très significatif sur la qualité des prévisions. Supprimer les radiosondes n'a pas un impact très important, mais dans l'hémisphère sud, les radiosondes sont relativement beaucoup moins nombreuses. L'avenir est aux observations satellitaires, fondamentalement, à la fois pour des raisons de rentabilité économique et aussi parce que techniquement, les possibilités d'amélioration sont bien supérieures.
Oui, je reviens sur les deux tempêtes du mois de décembre. Comment se fait-il que les prévisions de la deuxième tempête aient été beaucoup plus mauvaises que celles de la première, alors que la deuxième tempête était d'un style beaucoup plus classique que la première?
Oui. La prévision de la deuxième tempête ont été affectées négativement par le fait qu'un certain nombre d'observations exactes ont été en fait rejetées par le système de prévision. Alors, ça vaut la peine que j'explique un peu. Ça, ce sont des prévisions pour la deuxième tempête. Ce n'est pas des prévisions, c'est les conditions initiales le 12 décembre à 12 heures, c'est-à-dire en fait 6 heures avant l'intensité maximum. Alors, ces modèles numériques fonctionnent de la manière suivante. Ils évoluent en permanence dans le temps et les nouvelles observations sont introduites dans le modèle au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles. Et puis, quand on a besoin de faire une prévision, le modèle... On continue à faire marcher le modèle sur le calculateur dans l'avenir. Et puis quand on a fait une prévision, on revient à l'état initial et puis on réintroduit les observations nouvelles qui sont arrivées entre-temps et ça marche pendant la longueur de jours, de mois et d'années. Alors ici, vous avez les prévisions qui étaient disponibles le 27 décembre à 12 heures. Alors si vous regardez, non, c'est peut-être pas suffisamment précis, mais il y a des valeurs numériques. Vous avez ici par exemple écrit 764. Alors, pour les gens qui savent décoder ce genre de choses-là, 754, ça veut dire 976 millibars, 4 au niveau de la mer. Il s'agissait d'une mesure faite par un bateau. L'état qui a été produit par... Alors, tout ça, c'est introduit, il y a tout un code sur le calculateur, et tout ça, c'est fait automatiquement. Maintenant, un certain nombre, une fraction des observations, une fraction non négligeable, quelques pourcents, mais il y a chaque année, chaque jour, c'est dans le monde entier... plusieurs centaines de milliers d'observations, donc une fraction non négligeable des observations sont erronées pour des erreurs de mesure, des erreurs de transmission, etc. Et il est nécessaire de les identifier autant qu'il est possible et de les exclure. Et comme il est impossible que ce soit un météorologiste humain qui regarde les observations une à une, et d'ailleurs lui-même sera quelquefois très embarrassé pour dire si la progression est à rejeter ou tout cela est fait automatiquement. Et le critère principal pour rejeter, accepter ou rejeter une observation, c'est simplement de comparer l'observation à la prévision la plus récente. Alors, si une observation est manifestement absurde, une température de 500 degrés, elle est rejetée sans discuter. Autrement, on la regarde à la prévision la plus récente, et puis on dit que si elle est trop observée de la prévision, c'est l'observation qui est fausse. Mais c'est évidemment un jeu risqué. Ça peut être la prévision qui est fausse. Alors, ça marche assez bien, mais il y a des circonstances où ça dérape un peu. Et c'est ce qui s'est produit dans la deuxième. Un certain nombre, cette observation à 964 millibars, dans l'état reconstitué, elle se situe à un endroit où la pression telle qu'elle est mise dans les conditions initiales était 989 millibars. Donc, il y avait une erreur de 13 millibars. Ici, vous aviez une observation à 989. Qui se trouve 985 ici, qui se trouve placé à un endroit où la pression telle qu'elle est dans les conditions initiales était de 992,5, une différence de 7 millibars. Ceci veut dire que ces observations ont été rejetées, qu'elles ont été jugées trop loin de la prévision pour être fiables, qu'elles ont été rejetées. C'est pour ça que la prévision a été mauvaise. Cela étant, les prévisionnistes ont vu que ces observations avaient été rejetées. Et comme il y en avait plusieurs, ils ont dit, là, c'est le système qui s'est trompé, il faut les prendre. Et ils ont annoncé une tempête plus intense que celle que prévoyait le modèle numérique. Mais ça n'a pas suffi. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce que je disais en quelques mots tout à l'heure, c'est qu'il se trouvait qu'à la même époque, Météo France était en train de mettre la phase finale à développement d'un système d'assimilation d'observation, puisque c'est le mot, plus élaboré, qui prend mieux en compte la continuité temporelle de l'écoulement, telle qu'elle est définie par les équations de base, une assimilation de type variationnel, et que cette assimilation de type variationnel, parce qu'elle a produit auparavant une prévision plus exacte, a, elle, accepté ses observations, et dans cette assimilation de type variationnel, faite après coup, dans les jours qui ont suivi, mais les codes étaient déjà tout prêts, les observations qui avaient été rejetées par le système de prévision en fonctionnement le 27 décembre, ont, elles, été acceptées, avec ici une dépression, quelques heures avant le maximum de la tempête, de 974 millibars contre 988 millibars dans la prévision qui a été faite. Alors, incidemment, depuis, c'était prévu d'ailleurs, hein, c'est pas la tempête qui a prouvé, mais depuis, ce système variationnel a été mis en route opérationnellement, il y a maintenant quelques semaines, à Météo France. Le résultat obtenu sur cette tempête n'a fait évidemment que confirmer la décision, mais la décision était déjà prise de le faire. Donc, il y a un changement a été fait récemment qui, dans le cas a posteriori, mais dans le cas de la deuxième tempête, a un impact positif extrêmement significatif.
Monsieur Talagrand, je vous remercie.